18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. Je vous laisse en compagnie de Nemo Ampis pour le débat du jour.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le débat, c'est parti sur RFI.
Le débat du jour. Nemo Ampis.
Le contexte géopolitique mondial n'a plus été aussi tendu que depuis la guerre froide. Les guerres s'intensifient, on l'a vu récemment en Ukraine, au Proche-Orient et avec elles, une menace qui se fait de plus en plus régulière dans la bouche des grands dirigeants de ce monde. La menace nucléaire est-elle encore un fantasme ou se rapproche-t-on d'une réalité? A-t-elle été banalisée? Et que dit-elle du monde dans lequel on vit? Pour répondre à toutes ces questions et pour enrichir le débat, je reçois ce jeudi en studio le général Jérôme Pélistrandry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Jean-Pierre Molny, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et en ligne avec nous, Jean-Marie Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'ICAN France, ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Tout d'abord, messieurs, un peu de contexte, sur les 9 pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, 2 d'entre eux détiennent à eux seuls 80% des ogives nucléaires, soit environ 8000, actives ou pas d'ailleurs. Il s'agit des États-Unis et de la Russie, vient ensuite la Chine avec environ 500 unités. Pékin qui, selon Washington notamment, pourrait d'ici 2030 doubler son arsenal. D'autres pays, même s'ils ne le reconnaissent pas officiellement, je pense à l'Iran, veulent sans doute se doter d'une telle arme. On y reviendra dans cette demi-heure. Et il y a une semaine, la Russie de Vladimir Poutine, après avoir élargi la doctrine nationale sur l'usage du nucléaire, a tiré un missile balistique intercontinental sur l'Ukraine, conçu pour porter des ogives nucléaires. Il n'en était pas équipé, certes, mais c'est tout de même une nouvelle étape de franchie, Jérôme Pélistrandry, peut-être, qu'a tenté de faire passer comme message le président russe.
Oui, c'est une nouvelle étape avec donc ce tir de missile, alors qui n'est pas intercontinental, mais de portée intermédiaire. Enfin, portée intermédiaire, c'est entre 3 et 5 000 km, donc c'est déjà un gros...
On va quand même loin.
Ça va quand même loin. Le message était moins adressé aux Ukrainiens, qui, hélas, ont l'habitude des bombardements, et donc ils n'en sont plus à un bombardement près, mais le message était adressé aux alliés de l'OTAN. Alors, s'agissait-il des puissances nucléaires ou s'agissait-il des autres pays européens qui, eux, ne disposent pas de la dissuasion nucléaire? En tout état de cause, on voit bien que Vladimir Poutine agite, et cela, mais depuis le début donc, de son opération spéciale militaire, la menace nucléaire. C'est vraiment dans ses discours et de son premier cercle, en permanence, on joue là-dessus. En fait, on joue à vouloir faire peur, et faire peur notamment aux Européens.
Ce jeudi, lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine a soutenu qu'il n'excluait pas d'ordonner une utilisation d'Oreshnik, ce fameux missile, contre des cibles militaires ou contre des centres de décision, y compris à Kiev. On a ici, Jean-Pierre Molly, une nouvelle illustration concrète de ces menaces.
Bah oui, effectivement, Vladimir Poutine, il ne fait que réinstaurer sa dissuasion, hein, et il le fait à chaque étape, on le voit bien, de l'évolution du conflit et en l'occurrence de l'utilisation de missiles ATACMS américains sur le territoire russe. Ce qui est intéressant quand même avec le missile qui a été tiré, c'est que c'est un missile à portée intermédiaire, que ces missiles avaient été interdit par le traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 1987, que les Américains s'en sont retirés, les Russes s'en sont retirés, et là, les Russes sont en train de montrer qu'ils ont un missile à portée intermédiaire. Or, ceux qui ont un petit peu de mémoire se souviennent que dans les années 80, c'est le fait qu'il y a eu des missiles SS-20 déployés par l'Union soviétique qui a fait qu'il y a eu une double décision de l'OTAN pour réintroduire des missiles américains à portée intermédiaire en Europe. Donc il y a quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que ce n'est pas un message aussi aux Américains pour voir est-ce que vous allez réagir, est-ce que l'OTAN va réagir comme elle a réagi en 1980?
Je voulais qu'on revienne également sur les ambitions plus vraiment dissimulées de Téhéran. Demain, à Genève, se tiennent des pourparlers entre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, trois pays qui ont, aux côtés des États-Unis, la semaine dernière, publié un texte condamnant le manque de coopération de l'Iran sur le nucléaire. Les autorités iraniennes qui réaffirment qu'elles pourraient se doter de l'arme en cas de nouvelles sanctions européennes. Jean-Marie Collin, l'Iran est-elle en passe de devenir la dixième puissance nucléaire mondiale ?
Bon, tout d'abord, il ne faut absolument pas le souhaiter, évidemment, puisque si jamais il franchissait ce pas, on aurait une poursuite de la prolifération vers d'autres États, même si ça prendrait quelques années. Et d'ailleurs, pour l'Iran, aujourd'hui, on peut encore penser que ça va prendre un certain temps. Maîtriser la technologie nucléaire, militaire, c'est probablement ce qu'ils savent faire. On va rester au conditionnel. Après, faut-il encore avoir la capacité de pouvoir monter, d'abord de produire beaucoup d'armes nucléaires. Hein. C'est pas tout d'en avoir une seule, mais il faut en avoir un certain nombre quand même pour que ça soit vraiment dissuasif. Et puis d'avoir la capacité potentiellement d'utiliser ces armes nucléaires. Il n'en reste que pour le moment, c'est pas le cas. L'Iran reste soumis à une obligation internationale qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire, qui l'oblige à ne pas posséder ce type d'armes. Et il est quand même regrettable, globalement, que ce soit à cause des États-Unis, lorsque Donald Trump s'est retiré de ses accords de Vienne conclus en 2015, que nous soyons dans cette situation.
Certains spécialistes voient potentiellement un monde qui passerait de 9 à 17 puissances nucléaires. En est-on encore loin, Jean-Marie Collin ? Et faut-il prendre ces théories au sérieux tout de même ?
Oui, alors évidemment, il faut faire attention et c'est pour ça qu'il existe des traités pour combattre la prolifération nucléaire. Alors, j'étais pas sur cette planète et je n'étais pas né dans les années 60, mais le président Kennedy avait fait un fameux discours où il s'inquiétait qu'on pourrait passer à avoir au milieu des années 70, 20 à 25 puissances nucléaires. Et c'est pour cette raison-là exactement que les États-Unis se sont rapprochés de l'URSS pour créer avec les Britanniques un traité, le traité de non-prolifération nucléaire, et combattre activement la possibilité que des puissances disposent de l'arme nucléaire. D'ailleurs, soit dit en passant, la France n'a ratifié ce traité qu'en 1992, en dernier sur les cinq. Donc ça montre bien que les traités, le droit est un moyen de combattre, de mettre de côté ce danger, et c'est là-dessus qu'il faut absolument revenir. C'est là-dessus, aujourd'hui, dans ce moment chaud, où il faut travailler au sein de l'ONU sur les problématiques de désarmement.
Ces pressions exercées par Téhéran, par Moscou, on y revient, sont-elles justement un moyen de peser dans les négociations ? Vous en parliez, Jérôme Pellistrandi. Ces pressions qui n'étaient pas, selon vous, destinées aux Ukrainiens, mais plutôt au monde occidental, est-ce que c'est un moyen de peser, notamment dans les négociations, et de rendre la tâche plus difficile aux États-Unis, par exemple, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
Alors, il y a plusieurs approches possibles. Bon, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle négociation ? Dans le cas de Vladimir Poutine, la négociation, c'est la capitulation de l'Ukraine. Il faut bien être clair, il n'y a pas de négociation, il y a une capitulation de notre région. Voilà, là c'est. Et ceux qui disent le contraire, en fait, mentent. Hein. Il faut quand même le dire de manière très ferme. La Russie est une puissance agressive, donc elle va utiliser tous les moyens pour faire pression, notamment sur les Européens, on va dire sur les maillons faibles qui peuvent légitimement s'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle administration Trump, quel lien transatlantique, que ce soit avec l'OTAN, quelle relation. Et là, il y a une véritable, effectivement, incertitude stratégique qui s'ouvre devant nous. Et Vladimir Poutine l'a très bien compris, c'est la raison pour laquelle il fait pression. Il y a ces menaces avec, on va dire, le gros bâton qui était la démonstration du tir du missile, les menaces nucléaires, mais également, et il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est ce qu'on appelle la guerre hybride, où ça va des cyberattaques. On a maintenant la quasi-certitude, par exemple, que les câbles qui étaient en mer Baltique ont été volontairement détruits par un bâtiment chinois sous obéissance russe, en quelque sorte. Mmh. Donc, la Russie est dans une posture extrêmement agressive. Et donc, elle veut à tout prix, d'une part, sa victoire sur les Ukrainiens et, en fait, démembrer, défaire tout ce que, à la fois l'OTAN et l'Union européenne, deux entités que Vladimir Poutine déteste.
Mais est-ce que justement le brandissement de cette menace nucléaire par Vladimir Poutine, il en fait beaucoup usage? Est-ce que ce martèlement n'est-il pas excessif et ne peut-il pas lui nuire?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que face à l'agressivité de Moscou, nous avons la dissuasion nucléaire française, mais également chez les Britanniques et chez les Américains, qui joue pleinement son jeu. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'on appelle la grammaire du nucléaire. D'ailleurs, chaque fois que Vladimir Poutine en rajoute, on voit que les trois puissances nucléaires occidentales n'en rajoutent pas. Parce que
il
n'y a pas de surenchère. Mais on envoie des messages, on envoie des signaux stratégiques. Je vais prendre un exemple très simple. La dernière couverture du numéro d'Air Actualité, qui est le mensuel de l'armée de l'air du mois de novembre, à l'occasion du 60e anniversaire des forces aériennes stratégiques, on a une photo en couverture d'un Rafale équipé du missile ASMPA rénové qui est à tête nucléaire. C'est du signal stratégique. Et l'attaché de défense russe à Paris, il comprend très bien le message qui est envoyé.
J'ai une question un peu plus générale pour vous, Jean-Pierre Molny. Le rôle de l'arme nucléaire est-il toujours aussi important dans les relations internationales? Est-ce qu'il a pris encore plus d'ampleur?
Là, on a un phénomène qui est quand même extrêmement ennuyeux avec ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire que l'agression de l'Ukraine s'est faite sous la protection de l'arme nucléaire russe. Et on est dans une situation, à l'heure actuelle, on le voit bien, dans la façon dont on est impliqué dans le conflit, on est quand même extrêmement précautionneux du fait de cette menace de la dissuasion russe, sachant que nous ne sommes pas en guerre. C'est l'Ukraine qui est en guerre. Nous, on est en soutien uniquement. Alors, on franchit de temps en temps quelques caps. C'est le cas avec les attaques. À chaque fois qu'on franchit une étape, d'ailleurs, les Russes menacent d'employer l'arme nucléaire, en étant suffisamment vague pour être dissuasif, parce que pour être dissuasif, il faut être vague. Donc, on est quand même un peu contraint dans cette affaire. In fine, ce qu'on essaie d'obtenir déjà, c'est que l'Ukraine ne tombe pas. Plus l'Ukraine durera, plus on peut penser quand même qu'on poussera également Poutine à la table des négociations.
Et sur cette dissuasion, justement, Jean-Marie Collin, le fait de posséder cette arme nucléaire a longtemps été vu comme une garantie de sécurité. Est-ce que c'est vrai? Et sinon, on imagine qu'elle l'est encore moins aujourd'hui?
Alors, bon, ça a été vu comme garantie de sécurité pour ceux qui ont l'arme nucléaire. Tous ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire voient le fait que des États qui possèdent des armes de destruction massive, ça les met en insécurité, puisqu'il faut bien être conscient que tout emploi d'armes nucléaires, volontaires ou involontaires, viendrait provoquer des conséquences humanitaires catastrophiques et dont l'ensemble des pays à travers la planète en subirait les conséquences. Maintenant, je ne peux pas vous dire si la dissuasion fonctionne ou ne fonctionne pas, puisqu'on ne peut pas refaire l'histoire sans l'arme nucléaire. Par contre, on peut montrer qu'il y a de nombreux faits de l'histoire qui montrent que, par moment, les États qui possèdent ces armes nucléaires ont été mis à mal. Par exemple, tout simplement, depuis 3 mois, l'Ukraine bombarde des sites stratégiques en Russie, est sur le sol militaire, est sur le sol russe également. Donc, c'est des choses normalement qui ne devraient pas arriver pour une puissance qui dispose de l'arme nucléaire. Donc, on a comme ça toute une série d'exemples. On pourrait repartir aussi sur lorsque l'État irakien a bombardé avec des missiles balistiques le territoire israélien qui lui-même possède des armes nucléaires, par exemple, ou encore la confrontation entre l'Argentine et les Britanniques qui possèdent des armes nucléaires, pour ce qui est des Britanniques. Et c'est le principe qu'il faut bien comprendre, c'est que ce processus de dissuasion est uniquement psychologique et que c'est un pari, finalement, le pari que l'autre recule avant qu'on appuie sur le bouton. Et toute la question est de savoir pendant combien de temps ce pari fou va être réalisé et personne ne va appuyer sur ce fameux bouton. En fait, on voit bien qu'on se repose sur la chance d'une manière générale face à ce possible chantage. Et on ne peut plus reposer notre sécurité sur cette question de chance. Encore une fois, il y a des obligations internationales d'éliminer les arsenaux nucléaires, même pour la France, pour la Russie, pour les Britanniques, pour les Chinois et les États-Unis, entre autres. Et c'est là-dessus qu'il faut avancer, puisque on voit bien que c'est un problème de sécurité internationale, sinon on n'en serait pas ici ce soir à en parler.
On a parlé de l'Iran, on a parlé de la Russie. Je voudrais qu'on évoque La Corée du Nord également, à l'heure où 10 000 soldats nord-coréens ont rejoint la Russie pour renforcer l'armée dans sa guerre justement face à l'Ukraine. Pyongyang a diffusé des images d'un site d'enrichissement uranium récemment. C'était juste avant la présidentielle américaine, Jérôme Pélistrandi. L'objectif était-il de faire peur aux Américains ?
Non, l'objectif n'est pas de faire peur aux Américains, parce que la capacité militaire nord-coréenne est largement inférieure à ce que peuvent faire les Américains. Mais c'est la déstabilisation, en fait, dans la région. Alors, il y a bien sûr la Corée du Sud, qui s'est fortement
inquiétée de ces mouvements.
Exactement. Il peut y avoir aussi le Japon. Ce qui est assez intéressant quand on étudie le cas de la Corée du Nord, c'est que c'est effectivement un État paria, en quelque sorte, qui a deux parrains, la Chine, et ça historiquement, depuis la guerre de Corée en 1953, la Chine et la Russie, avec le fait que, d'abord, le système politique nord-coréen est totalement basé sur le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire que toute l'industrie tourne autour de la production d'armement, avec un endoctrinement d'une population pour qui Kim Jong-un est un dieu vivant. Et on a vraiment là encore, une incertitude stratégique accrue, puisque c'est un pays à capacité nucléaire et dont on ne voit absolument pas comment on pourrait envisager une forme de désarmement du nucléaire sans que la Chine ou la Russie soient acteurs. Donc en fait, il faut bien comprendre que face à ces pays-là comme la Corée du Nord, le seul mode de fonctionnement ne peut être que le rapport de force. Et comme le disait Jean-Pierre Monnier très justement, en jouant sur le fait d'une forme de rationalité, où à un moment donné, effectivement, le dicteur, parce qu'il faut rappeler que c'est un dictateur, considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais penser qu'on pourrait, nous, Français et Anglais, dire bah, « Tiens, nous, on veut montrer l'exemple en désarmant », c'est carrément en fait se jeter dans la mare aux crocodiles en espérant que les crocodiles n'aient plus faim.
Jean-Marie Collin, sur cette question.
Oui, on voit bien le rapport de force nous mène finalement, puisque avant ils n'avaient pas l'arme nucléaire, les Nord-Coréens, et nous étions donc plus forts qu'eux sur le plan de la puissance, et donc ça n'a permis rien du tout. Et aujourd'hui, ils ont l'arme nucléaire, et nous aussi, finalement, quand je dis nous, les États comme États-Unis, par exemple, et ça ne change absolument rien. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il va quand même falloir sortir par le haut de cette histoire. Alors avant de désarmer, comme à chaque fois, il est indiqué unilatéralement, par exemple, eh bien, on propose tout simplement de participer à des négociations du traité sur l'interdiction des armes nucléaires comme État observateur. Ça veut dire que la France rentrerait dans cette salle où il va se réunir près de 130 États en mars prochain aux Nations Unies, écouterait les revendications des différentes personnes sur un traité qui est en vigueur. Légalement parlant, les armes nucléaires sont totalement interdites par le droit international. Et ça, c'est une première étape, c'est une première action. C'est se démarquer finalement de la Corée du Nord et de la Russie qui agissent de la même façon, ou encore voter un certain nombre de résolutions en faveur du désarmement nucléaire qui ont une portée plus politique que juridique directement. Mais il va bien falloir comprendre quand même que on ne va pas pouvoir tous s'armer de tous les côtés de la planète sans qu'il y en ait un seul qui utilise des arsenaux nucléaires. Jean-Pierre Molyneux a parlé de la crise des SS-20 et des missiles américains au début des années 80, entre 77 et 85. Personne n'a envie de retourner dans cette période où il y a eu de nombreux moments extrêmement chauds. Et je pense que si on veut l'éviter, il faut, nous, les Européens, ceux qui ont une démocratie, réfléchir par le haut. Et par le haut, c'est engager des réflexions sur le désarmement nucléaire.
Jean-Pierre Molyneux, on commence à compter les jours avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On se souvient de sa politique de pression maximale envers Téhéran lors de son premier mandat. Il avait sorti unilatéralement en son pays des accords de Vienne signés en 2015 qui prévoyaient un encadrement du programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions internationales. En réponse, Téhéran avait considérablement augmenté ses réserves de matières nécessaires pour fabriquer des armes nucléaires. Que doit-on, que peut-on attendre de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur cette question du nucléaire ?
Ah bah sur la question iranienne, à mon avis, rien du tout. Tout ce qu'a réussi à faire Trump, c'est à accélérer le mouvement de l'Iran vers l'arme nucléaire. Et quand on regarde la situation en plus régionale, on va plutôt vers une nucléarisation de l'Iran aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la question de l'accès à l'arme nucléaire, la prolifération n'est jamais technique, elle est politique. Les pays se dotent de l'arme nucléaire quand ils considèrent qu'ils sont en danger ou qu'ils veulent conserver leur régime. C'est la politique nord-coréenne. L'arme nucléaire nord-coréenne, elle est uniquement faite pour que le dirigeant nord-coréen et son régime ne tombent pas. Et l'Iran, d'une certaine manière, c'est la même chose. Donc tant qu'on n'aura pas un système de sécurité internationale avec des règlements politiques des conflits qui sera où on aura réussi, on n'aura pas de désarmement nucléaire. La crise des zéro missiles, paradoxalement, elle a précédé le désarmement nucléaire. Mais elle a précédé le désarmement nucléaire parce que Gorbatchev est arrivé au pouvoir et qu'à ce moment-là, il y a eu une négociation américano-soviétique pour désarmer. Voilà.
Sur l'Iran, Jérôme Pellistrandi, la question n'est-elle pas de savoir quand va-t-elle pouvoir se doter de l'arme plutôt que de savoir si elle en est vraiment capable, finalement?
Alors là aussi, c'est une question qui est effectivement très complexe, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'Iran est une puissance nucléaire civile, avec des capacités de production, avec des centrales d'ailleurs de conception russe, la Russie fournit. Et l'AIEA, c'est ça qui est très paradoxal, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, contrôle les installations dites civiles. Maintenant, c'est toute la problématique effectivement du nucléaire militaire, et il est la garantie de la pérennité du régime. C'est bien ça ce qu'il faut bien comprendre. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut penser, n'oublions pas que le Pakistan est puissance nucléaire, c'était dans le cadre de sa confrontation avec l'Inde.
Avec l'Inde, oui.
Mais que, à partir du moment où, si l'Iran franchit le seuil dans quelques mois ou dans quelques années, qu'est-ce qui empêchera un État de la région du Golfe, on peut penser à l'Arabie saoudite, voire la Turquie d'Erdogan, de se doter de l'arme nucléaire. Il faut bien comprendre aussi que ce sont des pays qui ont désormais, là par contre, les capacités technologiques et intellectuelles pour le faire, qui n'avaient pas forcément il y a 15 ans. Aujourd'hui, ces pays-là pourraient assez rapidement, dans un contexte de tension croissante, dire pour garantir mon régime, ma souveraineté, mon empire, je développe l'arme nucléaire.
Jean-Marie Collin, selon vous, Téhéran prendrait-elle le risque d'une nouvelle mise au ban de la scène internationale, cette fois encore plus large, en s'emparant véritablement de cette arme nucléaire?
Mais Jean-Pierre Molny l'a bien expliqué, là, dans ce cas des Iraniens comme des Nord-Coréens, c'est effectivement pour conserver un régime et donc avoir cette potentielle garantie. Donc ce qu'il faut éviter, c'est pousser les Iraniens à la faute et après se retrouver avec cette 10e puissance nucléaire qui pourrait en engendrer une prolifération. Alors effectivement, des États comme la Turquie ou d'autres ont peut-être cette capacité intellectuelle. Maintenant, objectivement, je pense que si la Turquie se lançait dans la course à la bombe, on aurait vraiment plein de problèmes de sécurité internationale, puisque ça veut dire aussi sortir d'un ensemble de traités. Donc il faut bien trouver une négociation avec l'Iran, encore une fois, on revient à la diplomatie, faire en sorte que l'Iran revienne pleinement au jeu de cette négociation, avancer des pions de notre part aussi, lui garantir un certain nombre de sécurités. Et puis, il faut aussi quand même parler de l'arme nucléaire que dispose Israël, puisque Israël possède cet arsenal nucléaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des négociations à laquelle Israël ne veut pas participer pour la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Ça aussi, encore une fois, c'est la diplomatie. Alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais jusqu'à force du contraire, c'est le seul moyen pour garantir la paix en général.
Je vous le disais, la tension n'a jamais été aussi forte que depuis des années. Des tensions, il y en a également en mer de Chine et autour de Taïwan. Je le précisais, Pékin qui pourrait doubler son arsenal d'ici 5 ans, le tripler peut-être même d'ici 10 ans. Là encore, cette menace nucléaire brandie par Pékin est-elle un moyen de pression? On pense aux États-Unis qui sont très présents dans la zone, Jérôme Pellistrandi.
Alors, bien sûr, c'est un moyen de pression à l'égard des États-Unis, mais pas que. En fait, il faut bien comprendre que la Chine a une ambition impériale et avec comme objectif 2049, qui sera le centenaire de la République populaire de Chine. Et donc, effectivement, l'objectif des Chinois, c'est de tripler leur capacité nucléaire. Je rappelle qu'ils sont en train de construire un quatrième porte-avions. Alors, la problématique des Chinois, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre depuis très longtemps. La dernière guerre qu'ils ont réellement menée, c'est contre le Vietnam en 78, et c'était pas très bien passé. Mais il y a, en quelque sorte, la volonté d'étouffer, en quelque sorte, donc la région. D'ailleurs, on le voit bien, par exemple, un pays comme la Thaïlande essaye de se ménager un maximum de liens avec la Chine. Le Vietnam, pas forcément. Et donc, la menace, la capacité nucléaire joue pleinement pour Pékin, à la fois, bien sûr, contre les Américains, mais également contre le Japon, contre l'Australie, hein, contre toute la région. C'est un moyen de pression majeur et avec l'accélération du programme. Et là, on négocie avec Pékin. Oui, mais je vois mal aujourd'hui Xi Jinping s'engager dans un processus de désarmement. Au contraire, il est dans un processus de réarmement de la Chine, tous azimuts.
Jean-Marie Collin, le monde est-il en train de passer de la doctrine de la dissuasion à un vrai retour de l'arme nucléaire, et va-t-on de plus en plus vers une nouvelle course à l'armement ?
Mais en fait, ces États n'ont jamais changé de doctrine. Ce sont les médias qui se sont plus inquiétés, et une grande partie de la classe politique internationale qui ne s'est plus inquiétée d'existence des armes nucléaires. Parce que l'arme nucléaire et la politique de dissuasion qui existe à peu près depuis le milieu des années 50 a toujours été présente. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 50, ces États font peser sur le reste du monde et les populations civiles une menace extrêmement importante de destruction de la société. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'on souhaite continuer avec cette menace permanente ? Et il semble quand même qu'un grand nombre de personnes s'interrogent. Ou est-ce que l'on souhaite engager un processus de réflexion et de négociation qui, encore une fois, peut prendre du temps, mais est-ce que véritablement nous avons le choix ?
Cette demi-heure commence à toucher à sa fin. Une réponse peut-être chacun pour refermer ce débat. À quel point doit-on prendre au sérieux ces menaces nucléaires de plus en plus régulièrement brandies, Jean-Pierre Molny ?
Déjà, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Russie, je pense que là, il y a un bras de fer, sachant qu'on pense quand même qu'on va arriver bientôt à la table des négociations. Donc, on essaie de s'y trouver dans les meilleures positions. Donc, les Américains font leur dernier effort vis-à-vis des Ukrainiens. Donc, les Russes menacent, si vous continuez, j'utiliserai l'arme nucléaire. Tout ça est à la fois assez normal et en même temps assez inquiétant, parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on menace d'employer l'arme nucléaire, hein, dans l'histoire. Après, sur la question de la course à l'armement, très honnêtement, on est dans une phase à l'heure actuelle de course à l'armement, parce qu'on a des conflits politiques, Chine, États-Unis, Russie, Europe, États-Unis, qui sont extrêmement forts.
Jérôme Pélistandry.
En fait, le problème est de savoir si, même si on est encore peut-être autant des dinosaures, hein, veut-on rester herbivore face à des carnivores ? Le problème, il est là. Hein, je reprends l'expression. Voilà. Mais c'est une réalité. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, le droit international est remis en cause par un certain nombre de nations qui pensent rapport de force, puissance impériale. La négociation, oui, mais il faut pouvoir se défendre. Et donc, on est dans ce contexte extrêmement compliqué, extrêmement dur, où on a face à nous des gens qui ne nous aiment pas et qui refusent nos valeurs de démocratie, de liberté, de droits de l'homme. C'est la réalité, donc il faut pouvoir se défendre.
18h58 ici à Paris. Merci à vous trois, messieurs. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Et Jean-Marie Collin, qui était avec nous en ligne, directeur d'ICAN France. Dans une grosse demi-heure sur RFI, le retour de l'actualité africaine. Ce sera avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Nemo.
Et à la une d'Afrique Soir.
Alors nous parlerons de la visite d'État du président nigérian en France, Bola Tinubu, qui est à Paris. C'est une première, la première visite d'un président du Nigeria dans notre pays depuis 24 ans. Première journée marquée par toute une série de déclarations. L'objectif, c'est de renforcer le partenariat entre les deux pays. Donc ça va porter sur la défense, sur l'économie, l'économie, bien sûr, sur la culture aussi. Et puis nous parlerons également du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui est en visite, lui, au Tchad. Il annonce que la France va débloquer 7 millions d'euros pour la crise humanitaire au Soudan. Vive émotion au Cameroun, au sein du barreau, après qu'un avocat ait été molesté par les gendarmes à Douala. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Et puis, bien sûr, le moment toujours très attendu de notre émission, la sélection musicale d'Hervé Mandina, alias
DJ Facemaker.
Oui, DJ Facemaker, qui va faire groover l'émission.